Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couvre, l'émission de débat autour du manga. Aujourd'hui, on referme la saison avec notre dernière émission. Mais attention, on va vous parler de manga de dragon. Parce que ouais, bah dragon, manga, c'est logique. Parce que le plus connu des mangas, c'est... Dragon Ball. Et en plus, Monsieur Torishima, l'éditeur...
C'est Dragon Ball Z.
Non, pas du tout. Et en plus, Monsieur Torishima, l'éditeur historique de Dragon Ball, était en France la semaine dernière, last weekend, pendant Japan Expo. Il était très relax. Et il parlait de Dragon Ball, mais il était très relax. Le mec est tellement... Oui.
Bah, c'est le gars qui a tout vu, tu vois. Il est là, genre, c'est bon.
C'est surtout qu'il a tout fait. Il a tout fabriqué.
Il a tout vu, puis c'est plus maintenant son problème, tu vois.
Alors ah non, lui, il kiffe sa retraite et c'est tout.
Et ce qui est marrant, c'est que tu sens qu'il a un peu tout vu, tout fait quand même, tu vois. C'est pas qu'il a une haute opinion de lui-même, il a une assurance, tu vois. Il a un truc, un charisme, un truc qui se dégage qui est assez.
Qui est assez logique au final.
Qui est assez logique, carrément, ouais, clairement. Bon, en tout cas, en parlant de manga de dragon, c'est quoi votre top de manga de dragon avec le mot dragon dans le titre? Moi je fais simple, hein, donc Dragon Ball, ouais. Ok, Dragon Quest, la quête de Dai, et Dragon Head. Vous mettez quoi?
Moi j'avais pas compris le jeu, alors je me suis dit merde, il a déjà dit trois super titres, il faut que j'en trouve d'autres.
Bah non, tu peux dire les mêmes.
Ah oui, mais sinon Glouton et Dragon, c'est cool aussi. Il y a des séries qui sont plutôt pas très connues mais qui sont cool, comme Un dragon dans ma cuisine, c'est tout mignon parce que c'est chez Nobinobi, moi j'aime bien. Et surtout quand tu me dis dragon et manga, en fait moi je sais que y a encore plein de titres qui sont super et qui sont actuellement en train d'être traduits, en train d'être achetés, et donc j'ai trop hâte pour la suite. Voilà,
ça c'est la carte Joker triche. Non mais il y a des trucs, je vous dis pas ce que c'est, et si tout le monde le trouve bien, je vais vous dire que j'avais raison, que je l'avais annoncé.
Mais est-ce qu'il y a dragon dans le titre? On sait pas.
Écoute, je sais qu'il y en a au moins 1, 2, 3, 4, 5. Cette année j'en ai lu au moins 5.
Ah ouais, donc c'est vraiment le
dragon dans le titre,
c'est la dragon mode
quoi. En japonais il y en avait au moins
dragon
2, 3 avec un dragon dans le titre.
Cagnard, ton top dragon?
Mais quelle galère. Mon dieu, quelle galère. Alors bah évidemment Dragon Quest, et j'ai même pas pu mettre Fly du coup, tu vois.
Je me suis dit
Dragon Quest.
Hey, attendez. Faisons une pause. Faisons quelques secondes de silence.
Dragon Quest.
Ça d'accord. Y est. Ouais. On peut le dire. Cagnard a compris que Dragon Quest, ça s'appelait Dragon Quest.
Non, Cagnard a pas compris. Cagnard a été obligé de dire ça. Donc, bon, j'ai dit Dragon Quest. Derrière, j'ai dit Dragon Ball. Et derrière, bah, tu sais, j'ai regardé ta liste, j'ai vu Dragon Head. J'étais là, bah oui, bien sûr, mais je vais pas répéter ce qu'il vient de dire. Donc, je suis même allé jusqu'à poser la question à ChatGPT en lui disant, vas-y, cite-moi tous les titres de
mangas que j'aimerais moi.
Il a rien inventé, mais même lui, il m'a dit. Et s'il n'y a pas dragon dans le titre, mais il y a dragon dans le manga quand même. Là, non, tu connais pas Max, il est relou. J'ai vraiment que ça. J'ai Dragon Quest et Dragon Ball.
Robin?
Bah moi j'ai failli tricher en donnant des titres de films, parce que j'en ai plein, hein, des titres de films avec dragon dans le titre, genre Tigre et Dragon.
Il y a un manga Tigre et Dragon.
L'année du dragon de Michael Cimino.
Dragon.
Le baiser mortel du dragon avec Jeffrey.
Dragon 2, Dragon 3, Dragon
le film que j'ai vu. Bon, c'est vraiment la même chose que le film d'animé d'origine, donc ne vous embêtez pas avec ça. Non, bah sinon oui, il y avait Dragon Ball, Dragon Head. J'ai refusé de mettre Dragon Quest parce que pour moi ça restera Fly, tu vois. Je ne vais pas m'abaisser.
Au moins il y a un vrai fan.
L'enfoiré, il a fait un hold up.
Et donc j'ai mis Le Voyage de Ryu parce que Ryu, ça veut dire dragon en japonais.
Bien joué. Yes. Bien joué Robin. tu étais bien plus fort que Cagnard sur ce petit jeu.
Mec, et plus fort que ChatGPT.
Et en plus, ouais.
Yay, les humains.
Bon, été, chaleur, feu, dragon, tout est lié. Aujourd'hui, on vous propose une sélection estivale de sorties dragoniques dans la cinquième de couvre.
Oh, ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires.
Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja.
À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols.
Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir.
On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre.
Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles.
Oh les bâtards. Oh this new crazy mother.
Vous êtes en train d'écouter la cinquième de couvre, le seul podcast où on peut découper, charcuter, dépecer et aimer les mangas de dragon. Salut tout le monde, bienvenue dans cette dernière émission de la saison.
Salut.
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 Vous êtes prêts à parler de manga de dragon sans parler de Dragon Ball ni de Dragon Quest?
Émission la plus frustrante de l'année. Je sais que l'année n'est pas terminée, mais je le dis de base.
Bah c'est la saison, donc tu peux par rapport au début de saison. Tu te souviens quelle était la première émission de cette saison?
Oui, c'était nos mangas à venir de 2025.
Non, la saison elle a commencé en septembre. Non.
Ah, en septembre. Non mais j'étais pas là moi à ce moment-là. Vous étiez là vous? Vous
beaucoup,
avez enregistré sans moi.
Beaucoup d'émissions. Si c'est votre première fois ici, bienvenue dans l'univers de la cinquième de couvre. Chaque semaine on prend un manga, une thématique, une obsession, puis on creuse. On digresse, on va un petit peu dans plusieurs sens. Et puis si vous êtes des habitués, merci encore de nous suivre pour cette quasi dernière sortie de la saison. Il y aura un petit bonus dimanche après Japan Expo. Enfin, une semaine après Japan Expo. Mais si vous aimez ce qu'on fait, partagez l'épisode, parlez-en autour de vous. Et puis donnez-nous, si vous avez aussi un top avec des titres de manga avec le mot dragon dedans. Sans citer Dragon Ball. Ouais. Allez-y.
Bah, on a tous regardé et vous allez pas en avoir tant que ça. Mais
dites-nous si vous avez
mais il y aura peut-être une surprise. Il y aura peut-être une surprise.
Aujourd'hui donc, les dragons. On a vu qu'il y a eu plusieurs sorties autour de dragons. Mmh. On a vu des mangas qui sortaient, notamment un blockbuster hein, qui sort chez Glénat, une grosse sortie, qui est un manga très attendu, qui s'appelle Rory Dragon. On a vu Camélon et Dragon qui sortait. On a vu l'école des dragons sur la montagne. On s'est dit, il y a quand même plein de mangas avec le mot dragon dedans. Venez, on fait une émission Trend Dragon. Voilà, et c'est comme ça qu'on se retrouve à faire cette émission. Et on commence donc par parler de Rory Dragon. On en a parlé au tout début de cette année 2025 dans les mangas attendus pour cette année. Eh bien, ça y est, il sort. C'est toujours un manga attendu. C'est l'histoire d'une adolescente qui découvre qu'elle est métisse, moitié humaine, moitié dragon. Ce qui chamboule sa vie, forcément. Et qui l'oblige à s'adapter à ses nouvelles capacités tout en jonglant avec les défis de l'adolescence. C'est un manga qui est signé Masaoki Shindo, qui est sorti dans le Weekly Shonen Jump, puis ensuite qui a changé de prépublication pour aller sur internet sur le Shonen Jump Plus, auteur qui a dû mettre son manga en pause au bout d'un mois de parution seulement.
Aïe.
Il y a eu un emballement très rapide dans le monde, sur les réseaux sociaux, dans tous les pays du monde. Et ensuite, bah, pour des raisons qu'on ne connaît pas, peut-être la dépression, peut-être juste une blessure, peut-être juste un accident du quotidien. Mais quoi qu'il en soit, le manga a été mis en pause. Et après 2 ans, il est de retour. Il est de retour depuis l'an dernier. Et c'est pour ça qu'un éditeur étranger peut le publier. C'est le cas pour les éditions Glénat, un manga qui est donc très attendu. Mais ça, on le savait. Maintenant, qu'est-ce que vous en avez pensé?
Bah, moi, j'ai eu plutôt un super feeling de lecture. C'est vraiment une lecture que j'ai trouvée très agréable. J'avoue que je me suis laissé porter par le récit. J'ai vraiment, en soi, bon là, voilà, j'ai lu le tome 1, je n'ai aucune idée de où cette histoire va. J'ai plein d'intuitions, de théories sur ce que ça pourrait devenir. Mais en tout cas, c'est vrai que pour moi, tout ça est encore assez mystérieux. Mais le feeling en tout cas que j'ai eu à ma lecture était vraiment très agréable. Je pense que c'est vraiment pour moi ce qui fait la force principale du titre, c'est vraiment l'héroïne quoi. Il y a vraiment un truc très, elle est très attachante quoi, graphiquement, dans sa personnalité, dans sa façon de réagir avec les autres et tout. Et d'ailleurs bah voilà, c'est évidemment elle qui est en couve du, enfin vraiment en gros plan de la couve du tome 1, et c'est ça aussi qui va t'accrocher tout de suite. Moi je me rappelle très bien quand je voyais les premiers visuels qui apparaissaient sur la série, c'était vraiment cette couve avec cette héroïne qui a vraiment une bonne bouille, quoi. Et t'as vraiment envie de voir ce qui va lui arriver, quoi. Et vraiment, à la lecture, t'es pas déçu. Il y a un truc très frais qui se passe. Et je pense que, moi, je sais pas, je le vois bien comme un... Alors, je pense pas qu'il y aura peut-être autant d'action ou autant de rebondissements, mais je le vois bien comme un successeur un peu de Spy Family dans l'esprit, c'est-à-dire cette espèce de nouvelle vague de mangas relativement feel good quand même, tu vois, qui vont aussi avoir un truc où ils vont plus jouer sur les ressorts un peu classiques du shonen qui sont des événements dramatiques et comment tu transcendes ce truc et comment tu vas te battre pour accomplir ton destin. Et là, c'est plus des trucs sur un feeling global qui va être agréable, et je le vois bien ce titre s'inscrire dans cette... héritage.
Julie.
Ouais, bah écoute, moi je dis, enfin je pense que effectivement c'est une très bonne comédie scolaire avec une légère touche de fantastique. Mais c'est ce qui est marrant, c'est que en fait tout le monde dans cet univers a l'air ok avec la différence de l'héroïne, le fait que voilà, un matin se réveille, elle a des cornes sur la tête, enfin bon, elle comprend pas ce qui lui arrive, mais tout le monde a l'air de faire ah, c'est cool. Et c'est vraiment la chose qui la déconcerte le plus. Et du coup, elle se retrouve un peu isolée par rapport à quelque chose que tout le monde a l'air de trouver super et normal et pourquoi ça poserait problème. Et en fait, moi, ce qui me dérange un peu, c'est parce que en filigrane, bon, on voit la question du métissage en fait qui apparaît. Et je me dis, bon, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir de leur chapeau magique sur des questions de c'est quoi être, là, en l'occurrence, être humaine ou pas. Et comment est-ce qu'elle va trouver sa place et comment est-ce que les gens autour d'elle vont l'accompagner dans son adolescence, en fait. Il y a aussi ça qui est très fort. Mais le dessin est très sympa. C'est ces petits mangas où on est content de retrouver les personnages, on les accueille avec plaisir. Ils ont toujours des trucs rigolos, mais pas prise de tête à nous raconter. Et donc, c'est plutôt sympa.
Mais c'est ça, moi. Je pense que c'est ça qui est assez marrant avec ce titre, c'est que je pense même pas que ce soit spécialement un sujet pour l'auteur de parler de ces thématiques, tu vois, très profondes qu'ils ont, effectivement, la différence, le métissage. Alors, je pense que ça fait partie de ce qui va finalement alimenter le récit, mais tu vois, je sais pas si l'auteur veut spécialement dénoncer un truc ou, tu vois, parler de ça frontalement. Je pense que c'est une espèce de chose qui va mettre pour un peu déclencher des situations. Et moi, c'est vraiment ce qui me fait marrer, par exemple, c'est que vraiment, dès le début, dès le tome 1, t'as plein de non-dits du côté même. Bon, t'as évidemment plein de choses au niveau de sa vie à l'école, parce que ça provoque de la curiosité de la part de ses camarades, mais aussi du côté de sa famille. C'est-à-dire que sa mère lui dit « Ah oui, je t'avais pas dit, en fait, ton père, c'est un dragon. »
Ah non, mais pire mère du manga. Hein. Elle a eu le titre très très vite.
Et donc, t'es là genre « Mais du coup, tu sais pas... qui c'est ton père ? Elle t'avait pas dit qui c'était et
t'avais jamais posé la question.
Et toi-même, t'avais pas posé la question. Et du coup, en plus, petit à petit, dans le tome 1, tu commences à comprendre que sa mère continue à voir son père, c'est-à-dire qu'elle met ses chaussures de rando parce qu'apparemment, il doit vivre sur une montagne ou un truc où il faut des chaussures de rando pour aller le voir. Donc, elle va le voir. C'est pas un sujet non plus, tu vois.
Ouais, mais ceci dit, le fait de voir le père. Oui. Ça ajoute de savoir qu'il existe, que c'est pas juste ton père c'est un dragon, ça pourrait être une image.
Oui, très bonne insulte au collège.
Oui. c'est pas Dieu, c'est pas la Vierge Marie, c'est ça, sa mère. Ouais.
C'est vraiment un dragon, regarde, il est là. On le voit pas, mais ça met une touche un peu de weird. Quoi.
Complètement, parce que tu te dis, mais du coup c'est un dragon, mais ça veut dire quoi? C'est un dragon vraiment genre un gros lézard avec des écailles, ou c'est un dragon genre c'est un mec qui a des cornes et qui oui je suis un dragon en fait, tu vois. Donc c'est
et en même temps
tu sais même pas tout ça, quoi.
Il normalise ça énormément dans le bouquin, dans le sens où ils disent qu'il y a d'autres mix d'espèces, on va dire. Ouais. Et c'est juste que t'as l'impression de découvrir l'univers en même temps que l'héroïne,
c'est
en fait.
Ça. Et ce qui est marrant, c'est que tu te dis tous ces trucs genre de putain, ma mère m'a pas dit qui était mon père. Tu vois, normalement, dans un récit classique, ça offre un truc un peu drama de « Waouh, mais voilà, je vais claquer la porte, ma mère m'a pas dit la vérité et tout. » Mais là, non, genre « Ah, ok. » Et tu sais, tout est très... c'est traité avec une forme de légèreté très déconcertante.
Oui, maintenant, on va t'apprendre à cracher du feu comme il faut.
Mais
quand
du
même.
Coup, c'est ça, je pense, qui participe aussi au fait que c'est hyper agréable, c'est qu'il y a un truc un peu inattendu aussi, quoi, de toutes ces réactions de
décalé,
personnes.
Ouais. Limite, ça me rappelle un peu Dead Demon, dans le côté légèreté, ouais. Dans l'étrange,
comment,
tu vois.
C'est ça, comment appréhender une situation extraordinaire de manière...
on avance.
Demon Destruction.
Oui, je vais pas donner...
Manga Dino Asano. Cagnard, comment t'as trouvé ce manga, son ambiance dans l'ensemble?
Alors moi je l'avais lu effectivement en début d'année et du coup j'avais un petit peu besoin de me rafraîchir la mémoire parce qu'en fait j'avais pas grand souvenir de ma lecture du tome 1, si ce n'est que j'avais trouvé ça plutôt agréable. Et c'est assez marrant parce qu'à la relecture je me suis souvenu de pourquoi je n'avais pas gardé grand souvenir, parce que y a exactement cette forme de légèreté dont parle Robin dans le titre, et du coup ça donne une ambiance qui est assez particulière, qui fait que à aucun moment je ne sais sur quel pied on doit danser, tu vois. Alors c'est pas désagréable du tout, hein, c'est pas le problème, mais moi j'arrive pas à savoir où va le manga, et avec mes réflexes de lecteur habituel, moi je cherche les petites pépites, les petits traits d'intrigue où je vais me dire ah là il y a un truc, peut-être on peut travailler là-dessus. Mais du coup, alors ça me donne l'espoir personnellement pour un récit qui sera peut-être beaucoup plus ambitieux narrativement derrière, mais peut-être pas du tout. Et c'est ça qui me donne cette impression de je ne sais pas vers quoi va orienter le manga, parce que moi, dans mes souvenirs, enfin, c'est pas dans mes souvenirs, mais j'ai essayé de le comparer, par exemple, à un manga comme Reborn. Tu vois, Reborn, c'était que de l'humour au début. Et après, à un moment, ça a switché et on est parti en Neketsu, vraiment. Sauf que là, même au niveau de l'humour, on n'est pas sur de l'humour absurde. On n'est pas. Bah, il y a
sur
de l'humour.
Une tranche de vie.
Oui, c'est pas spécialement drôle d'ailleurs. C'est vraiment pas... juste léger, quoi.
Et il y a plein de moments où je me disais, ah bah là, ils vont forcer le trait au niveau de l'humour et compagnie. Et pas du tout. Donc, bah, ça me donne exactement le même feeling que Dead Demon, tu vois, où. Mais en fait, je sais pas ce que tu veux me raconter. Alors moi, je suis en train de chercher quelque chose que je ne vais peut-être absolument pas trouver. Et donc, je vais être potentiellement déçu derrière. Parce que c'est pas la promesse du manga dans ce tome 1. C'est pas un récit ambitieux.
Ah, il te promet pas ça.
Pas du tout. Mais c'est moi qui les cherche parce que, et en même temps, je suis persuadé que l'auteur ou l'autrice, l'avoue, je ne sais pas. Mais quand elle distille ces petits points en disant ah, tiens, il y a ton père et on le voit pas beaucoup. Ah, tiens, il y a d'autres espèces. Ben, moi, je prends ça comme des appels, tu vois, des coups de coude de me dire non, mais t'inquiète, j'ai un truc plus ambitieux derrière, quoi.
Eh bien, on a vraiment joué le jeu de ne lire que le tome 1 et de pas aller choper les chapitres suivants qui sont sur Manga Plus. Donc, on est dans les mêmes expectatives que dans laquelle vous serez à la fin de ce tome 1. Mais moi, je peux, comme toi, Kanya, ne pas m'empêcher de me dire ou d'attendre. Soit je me le dis, soit je l'attends, qu'il y a un twist, qu'il y a un tournant, qu'en fait, il y a un truc qui va faire tomber tout le château de cartes de ce tome 1 ou de ces deux ou trois premiers tomes et de ce monde où tout va bien. Et en fait, non, tout ne va pas bien. Et en fait, c'est une école de jeunes métis qu'on prépare à faire la guerre pour aller se battre et cracher
après,
du feu.
Après, t'as quand même des petits éléments un peu quand même de code shonen de... Alors d'abord elle apprend à maîtriser le feu et après ce sera l'électricité et après ce sera
mais
ça.
Est-ce que c'est pas bon, nos... okay,
peut-être et on va monter une team de X-Men
mais est-ce que c'est pas nos réflexes de lecteurs tu
ah,
vois
si,
de
oui, Neketsu oui, peut-être que l'auteur joue avec ça.
On projette ce truc tu vois dedans.
Ah, c'est complètement ça et en même temps c'est drôle de se l'imaginer et de se dire ah ouais j'avais bien tort. Tu vois même à la fin ça me fera rire.
Oui parce
quand même.
Qu'au final moi c'est ça qui va me donner envie de lire la suite, c'est justement que pour l'instant comme je sais pas où ça va je vais forcément être surpris, alors agréablement ou pas, mais en tout cas c'est ça aussi qui va me donner envie de lire la suite quoi.
Puis là au final ma lecture de Rory Dragon limite elle tombait extrêmement bien parce que à côté de ça ça fait quelques mois que je découvre un genre littéraire on va dire qui pourrait s'appeler de la SF LGBT on va dire ouais. Et on est sur de la SF, alors je parle de Becky Chambers par exemple ou de ouais. SL5 qui sont sur de la SF
du hope punk on dit aussi
mais je ouais. J'ai pas réussi à trouver le nom précis
ça,
du
ça,
genre
c'est le hope punk.
Mais c'est littéralement de la science-fiction qui est écrit par des femmes et avec des et en fait ça a l'air con dit comme ça tu vois c'est écrit par des femmes mais en fait c'est une manière complètement différente d'écrire de la science-fiction oui. Masculine et c'est une manière même très positive de décrire des récits
oui où le futur devient désirable
le alors désirable enfin, en tout cas, peut-être pas mais c'est genre le futur. En fait, dans le futur, le loup ne devient pas l'homme ne devient pas forcément un loup pour l'homme et en fait les gens s'entraident et compagnie. Et j'ai pas pu m'empêcher de faire un petit parallèle où bah là tout se passe bien en fait. Littéralement le seul problème de ce manga, c'est l'héroïne parce que tout le monde réagit très bien avec elle. C'est elle qui à chaque fois se dit non mais on va me juger et compagnie. Et alors c'est pas du tout désagréable et en plus comme je le dis ça correspond à un genre littéraire que je suis en train de découvrir. Mais j'ai surtout que c'est un genre littéraire qui n'empêche pas on va dire les événements ou autres. Mais j'ai eu le même sentiment de alors oui, ma fille est un dragon, mais ça va parce que en fait les gens sont tolérants. Et je sais que ça a pas l'air très sexy quand on le dit comme ça, mais je trouve qu'à l'époque actuelle, dans le climat actuel, ben en fait c'est assez agréable de lire quelque chose comme ça, d'un peu léger, d'un peu positif, parce que la science-fiction a toujours tendance à montrer le pire de l'homme. Ouais. Et là, on est sur un truc qui est beaucoup plus positif. Alors je fais un parallèle science-fiction fantasy parce que tu peux faire la même chose avec oui, la fantasy oui. C'est toujours des récits assez noirs, assez sombres.
Oui, puis là c'est de l'urban fantasy.
Oui, c'est ça, on est sur de l'urban fantasy. Mais du coup je trouve qu'il y a un truc qui est assez frais à l'heure actuelle et peut-être un genre qu'on est en train de découvrir dans le manga en fait.
Ouais, mais
oui,
t'as
ouais, utilises déjà depuis un moment
enfin. Ouais, mais tu utilises le bon mot, c'est-à-dire le c'est peut-être pas vendeur. Ouais, bon courage pour le vendre dans un monde où on a besoin de punchline, où on a besoin de
quel monde
Ouais, mais dans le monde qui nous permet de vendre des livres quand on est libraire ou quand on est éditeur de manga.
Mais tu vois,
après, je me mets à leur place. Ouais. Hein. Tu vois, mais t'as pas une punchline, t'as pas un truc. C'est,
t'as pas de high concept.
C'est super dur pour eux, je pense.
C'est pour ça que je citais Spy Family. Alors, le concept de Spy Family est beaucoup plus vendeur de base. Mais je pense qu'en termes de feeling, en fait, c'est à mon avis, au fond, ça va reposer sur les mêmes types de forces, c'est-à-dire l'attachement au personnage. Tu vois, au final, c'est ça qui va te faire accrocher à l'histoire. C'est le fait que Ruri, elle est hyper attachante, que les personnages secondaires, les autres camarades de classe aussi, tu vas un peu découvrir. Là, encore une fois, on juge un tome 1, tu vois, c'est compliqué. Moi, je me rappelle très bien d'ailleurs que Spy Family, le tome 1, j'avais pas spécialement accroché. Et je pense que c'est aussi un truc où ce qui va faire la force du titre, c'est le temps que tu vas prendre à un peu aussi te baigner avec les personnages, apprendre à les connaître.
C'est parfois reprendre le temps, comme beaucoup de mangas dont on a parlé.
Bien sûr, tu vois, ça fait un quart d'heure qu'on en parle, et je me dis, mais pour les libraires qui ont une minute face à un client pour lui conseiller un bouquin,
ils disent ça cartonne au Japon.
Non, ce qui est génial, c'est que, comme dit Robin, c'est l'héroïne, c'est vraiment l'ado typique qui est attachante malgré qu'elle elle est pétrie d'angoisse et elle essaye d'évacuer ses angoisses et il y a tout le monde autour qui fait tout va bien.
Oui, mais après c'est absolument pas un argument de vente.
Moi je suis un ado, le libraire me dit ah tu vois c'est un ado typique et puis moi je suis pas un ado typique.
Et puis tu vois je trouve qu'elle est angoissée mais pas tu vois pas dans une caricature que tu peux déjà avoir lu dans le manga de ah je sais pas comment je vais parler machin. Elle a un truc un peu
qui fait bien les caricatures d'ado.
Tu sais plus fin quoi, c'est vachement plus frais,
plus libéré.
C'est genre
pas Sawako. Ah tu comprends ça
Sawako,
elle a 30 ans. Donc déjà elle est plus ado.
C'est genre elle est stressée parce qu'évidemment c'est j'imagine à cet âge-là de toute façon toutes les transformations qui peuvent arriver dans ton corps que tu deviennes un dragon ou autre chose sont stressantes, tu vois. Et mais c'est pas traité, c'est pas surappuyé, c'est pas trop caricatural.
Oui, je suis d'accord.
Et je pense que c'est ça, moi, qui donne.
Elle a l'air assez humaine,
cette
en fait.
Espèce de vraie fraîcheur, quoi, tu vois, de trucs.
Par contre, je suis complètement d'accord avec toi, Maxime. Même si à partir du tome 3, le manga devient, héroïque et compagnie, le pitch restera le même. Et de dire, c'est une fille qui a des cornes de dragon et
on va
se rendre compte que la vie n'est pas tous les jours facile quand on a des cornes de dragon.
On laissera Johnny.
Très difficile à vendre, tu vois.
En tout cas, moi, je voulais juste dire que, je pense que je suis, je vis dans le futur, comme chacun sait.
Oui, on sait que tu viens du futur.
Et du coup, moi, je vous disais tout à l'heure, le dragon, c'est vraiment la figure hype du moment au Japon. En tout cas, pour le manga, il y en a partout. Toutes les sauces, vraiment, du truc d'action avec des dragons, du truc plutôt intimiste avec des dragons, des trucs rigolos avec des dragons.
Le dragon dans ma cuisine, le dragon qui loue un appartement.
Exactement.
Attention, parce que moi, du coup, ça m'évoque l'émission steampunk qu'on a fait, tu vois. Si le dragon devient juste un truc formel, alors qu'à la base, le dragon, c'est quand même, tu sais, l'animal légendaire le plus fort qui existe, tu vois. Game of Thrones est la dernière preuve de ça.
À la télé, j'ai vu un documentaire, les dragons ont vraiment existé. Ils nous prouvaient tout de A à Z.
Les dragons de Komodo.
Comment ça s'appelait ? Le règne du feu, rappelez-vous.
C'était trop bien.
Non, mais voilà. Attention à ne pas dériver sur un truc. Le dragon est un objet de fort, mais on sait que le manga sait le faire, ce genre de truc.
Alors, je suis désolée pour toi, mais tu vas peut-être. Parce qu'il y en a des pelletés, donc ça se trouve, tu vas tomber sur ce genre de.
Ah non, mais moi, j'ai mes dragons préférés. Je connais Baran.
De toute façon, culturellement, je veux dire, nous on est quand même dans une posture un peu exotique finalement. Le dragon, ça reste quelque chose qu'on, même s'il y a des incursions avec Game of Thrones, avec de la fantasy, on va dire Moyen-Âge occidental, le dragon. Je pense en Asie, au Japon, il n'a pas du tout la même aura en fait. Il y a vraiment une espèce de c'est vraiment. Au-delà du mythologique, il y a encore des rites religieux. Enfin, tu vois, c'est je veux dire quelque chose qui est beaucoup plus présent dans la vie de tous les jours. Tu l'en vois parce qu'il y en a dans les sculptures des temples, à l'entrée de certains monuments. Enfin, c'est beaucoup plus imprégné.
Tu parles culturellement.
Voilà. Et du coup, c'est quelque chose qu'il est normal de voir. Aussi présent en fait.
Tu veux dire qu'il y a des dragons au Japon
sans doute.
Après, ce qui est marrant, c'est aussi que justement le manga s'empare de la figure autant du point de vue de ce que tu dis, c'est-à-dire la figure mythologique telle qu'elle est présente au Japon ou en Asie a fortiori, mais aussi le dragon tel qu'il est vu dans la
culture occidentale, c'est-à-dire dragon cracheur de feu qui ressemble à un gros lézard avec des ailes, tu vois. Alors, que le dragon asiatique n'a rien à voir, c'est plus un espèce de serpent.
Comme on voit dans le dragon dans la montagne, tout ça.
Poisson serpent. Mais il vole quand même, même s'il n'a pas d'ailes.
Et il peut être marin.
C'est pas tout à fait le même, quoi.
Et il peut être beaucoup plus marin que.
Plus l'eau et l'air que le feu dans la culture occidentale.
Rory Dragon, c'est donc disponible. Le tome 1 est sorti aux éditions Glénat. On change totalement d'univers, mais il y a toujours Dragon dans le titre. Maintenant, avec le manga Dragon et Caméléon, je vous en parle depuis quelques temps de ce titre. On est dans un monde où les rivalités entre mangaka peuvent être fatales pour une carrière. Attention, tout peut se passer. C'est très très dur, le monde des mangaka. Et donc, deux auteurs aux trajectoires opposées voient leur destin s'entrelacer dans un échange de corps. D'un côté, on a Anagami Gario, qui est un auteur star à succès planétaire avec une série qui s'appelle Dragonland.
C'est étonnant que ça n'existe pas d'ailleurs, ce manga.
Et de l'autre, on a Miyama Shinobu, qui est un jeune assistant qui a très mauvais caractère, qui va de studio en studio, et il est surnommé le caméléon parce qu'il est capable d'imiter n'importe quel style à la perfection. Vous m'entendez déjà un peu vibrer là, rien qu'avec ce pitch. En revanche, il ne parvient pas à imposer son style, et à la suite d'un accident malheureux, les deux artistes échangent leurs apparences et donc ils échangent leur carrière.
Ouf.
C'est dantesque. C'est signé Ryo Ishiyama, un mangaka qui était couvé du côté du Jump, qui a reçu plusieurs prix pour des histoires courtes, qui a bossé sur le spin-off de One Piece, l'épisode A, qui a été dessiné par Boichi, et qui s'est lancé donc avec sa première série dans le Gangan Joker, le magazine shonen mensuel de Square Enix. L'an dernier, il gagne aussi un prix pour ce titre, remis par l'association japonaise des mangaka. C'est une œuvre très what the fuck, très exagérée sur l'univers du manga, et elle t'a pas forcément plu, Kanya.
Non, pas vraiment.
C'est pour, tu vois,
c'était dantesque, mais
c'était dantesque pour moi.
Pas pour Kanya.
Et puis Kanya a lu, fait, qu'est-ce que tu me dis, Max?
C'est vrai que tu me l'as vendu en plus.
Tu m'as dit baisse la tête et tu m'as frappé avec le manga. Pourquoi j'ai lu ça?
Et j'avoue que le lendemain, j'étais là, mais qu'est-ce que. Pardon? On est. Bon, alors déjà, faut savoir que bon, le manga avec son point de départ original, bah, pour moi, ça commençait mal parce que je le vois vraiment comme un manga isekai, on va dire, et je dois dire que c'est un genre que j'affectionne pas. Et bon.
Mais il faut que tu expliques, parce que isekai, c'est pas ça.
Non, je sais que c'est pas un isekai à proprement parler, vu qu'on ne passe pas dans un autre monde et compagnie. Je m'en doute bien, mais le fait de switcher comme ça d'un corps à l'autre, c'est, pour moi, on est vraiment sur les codes de l'isekai, de tu vas apprendre à redécouvrir ton monde ou découvrir un monde. Et je trouvais que les mécanismes, enfin, c'est vrai que pour moi, j'ai vraiment vu ça comme un isekai, même si je suis complètement d'accord, ce n'est pas un isekai, mais qui utilise les codes narratifs, pour moi, de l'isekai. Là, on est sur du swap de personnes qui...
On est sur Freaky Friday.
Sur Freaky Friday.
Le film,
effectivement.
Des années 2000.
Malheureusement, la référence des...
Your Name
est plus stylé quand même.
Vous croyez qu'ils vont tomber amoureux?
Les deux auteurs. Je fais une version...
ça fera un twist très rigolo.
Une version fanfic.
Et je dois avouer que de mon côté, la magie du manga, elle a pas opéré, quoi. C'est vraiment too much, c'est trop criard, c'est trop ambitieux pour un manga qui parle juste de manga, quoi. Et au final, j'arrive même pas à savoir, parce que on en avait discuté avec Robin, et Robin, je te laisse faire la comparaison que tu m'avais sortie quand on était au bar.
Pardon.
En gros, Robin, il m'a dit, c'est le Food Wars du manga, tu vois.
C'était le Food Wars du manga.
Et j'étais là, il a tout dit. Pour moi, il a tout dit. Et je mettais ça avec Yakitate de la Panne, tu vois, c'est genre les mangas où c'est over.
Tu donnes des références du manga, là.
Mais ça devient drôle, ça devient drôle.
Non, mais c'est que ce que partant du principe que de ce que Robin m'avait dit, j'ai pas réussi à déterminer si c'était un manga culinaire ou un manga de sport, en fait, tu vois. Mais c'est pas un manga qui parle de manga pour moi. Hein. J'ai encore un peu du mal à me faire une idée.
C'est un manga qui parle de performance.
C'est un manga qui parle de performance c'est too much, stop, calmez-vous, dose.
Moi j'avais dit à Maxime, c'est une battle d'ego sans limite. Et j'avoue que j'ai eu un peu de mal à lire aussi, mais je trouve que c'est très beau, que c'est très bien, c'est quand même bien dessiné, bien gratté.
Oui, ça je suis d'accord.
Mais moi je veux utiliser les mots d'un grand homme, Johnny de la cinquième de couve. Et Dragon et Caméléon, mais quel banger! Ce manga réussit à transformer le processus créatif en champ de bataille. Je veux dire, c'est une performance en soi de réussir à faire ça. Ça n'a ni queue ni tête. On ne peut pas transformer un processus créatif en champ de bataille. Et lui, il le fait. Mais, sauf qu'il le fait en mettant des têtes de dragon et des têtes de caméléon. Ça n'a aucun sens. Il faut lire ça au troisième degré, évidemment. Mais comme quand on lit Food Wars, on ne le lit pas forcément au premier degré.
Oui, mais Food Wars est drôle. Food Wars loue vraiment mais sur ce
dragon et caméléon. C'est drôle aussi.
C'est moins drôle quand même.
Non, c'est pas, on n'est pas au même. Enfin, dans Food Wars, il y a quand même un mec qui
m'a fait rire, mais je pense que c'était malgré lui.
Quand il goûte un truc, rire, mais c'était bien.
Il va retrouver ses grands-parents qui sont au ciel et tout. On n'est pas à ce niveau-là.
T'aimes pas le fait que ça soit si caricatural?
Non, mais bah, là, en fait...
Ça manque d'absurde, c'est quoi,
je pense. Alors ça, je suis complètement d'accord. Ouais. Ça manque d'absurde. Et même
moi, je le vois partout, l'absurde.
Même si je mets de côté les personnages qui sont vraiment, mais vraiment caricaturaux, j'ai vraiment, de toute façon, moi, je pense personnellement, un problème avec les mangas qui parlent du milieu de l'édition, tu vois. En fait, juste, ça prend pas avec moi. C'est pas que c'est bien ou pas bien, c'est juste, avec moi, ça marche pas. Et puis... En plus, là, dans ce manga, on ne sait jamais de quoi elles parlent leur histoire. Et je dois avouer que c'est quelque chose qui me... Ça me crispe. Ça parle de manga, mais on ne sait jamais de quoi parlent ces mangas, tu vois. En fait, au final, j'ai même fait un parallèle avec les mangas sur la musique, tu vois. Tu me parles de quelque chose que je ne peux pas lire ou écouter. Je dois juste me baser sur les réactions des personnages pour comprendre comment je suis censé réagir. Et quelque part, chez moi, ça casse la magie, tu vois, du manga. Je veux dire... Le mec qui ouvre un manga et qui dit « Oh mon Dieu, je n'ai jamais lu un scénario comme ça !» Ouais, bah fais-le-moi lire le scénario, du coup, si t'es aussi sûr de toi, tu vois. J'ai envie de le lire, ce scénario. Je peux pas te croire comme ça en me disant « Je n'ai jamais lu ça. »
Ouais, mais non, dans un... Imagine un polar, si le mec, c'est le meurtre le plus horrible que j'ai jamais
vu va le décrire. Normalement, il va le décrire.
Pas forcément, il va pas forcément te le décrire.
Mais alors moi, là, c'est faux. Ça,
moi,
c'est faux,
ce qui m'a plu... Non, c'est vrai, ce que je viens de le dire. Ce qui m'a plu, c'est que ça lorgne vers un tas de choses. Et ça picore des petits moments de tension, ça case un peu de satire par là, parce que quand on parle de combat d'ego, moi j'y vois vraiment une satire aussi et une critique du milieu professionnel. Et ça te fourre du Neketsu au milieu, je te dis pas par quel endroit, tu peux vraiment prendre tout ce que tu veux. Et de mon côté, moi je l'ai lu avec beaucoup de second degré, j'ai pris du plaisir à voir autant de choses, j'ai pris du fun, j'ai pris tout le fun qu'il me donnait, et ça me donnait l'impression de vraiment jamais se prendre au sérieux. Mais ça faisait les choses très sérieusement. Quand je vois les dessins des dragons, des caméléons, j'imagine le temps que l'auteur a passé là-dessus, je me dis qu'il le fait vraiment avec sérieux, avec passion. Tu vois ce que je veux dire ?
C'est peut-être le seul truc sur lequel il est vraiment sérieux, c'est le dessin des dragons et des caméléons, mais qui me paraissait tellement... hors sujet par rapport à ce qu'il racontait, tu vois, à chaque fois qu'il montre un dragon ou un caméléon, je suis là, mais ça n'a aucun rapport, là, ce que t'es en train de dire, tu tires ton concept. Et puis, il y a un autre point qui m'a fait tiquer sur ce genre de manga, mais encore une fois, hein, je parle des genres de manga qui parlent du milieu de l'édition, c'est que je trouve qu'ils ont aucun recul sur le milieu de l'édition, et je pense que c'est quelque chose qui m'embête au bout d'un moment. Il y aura jamais un élément qui viendra égratigner l'industrie du manga.
Oh, moi, j'en vois... Tout le long du bouquin ?
Ah bah alors à la manière japonaise, mais vraiment, enfin je trouve ça tellement léger.
Moi à chaque fois je vois une critique des auteurs, une critique du milieu.
Mais qu'est-ce qu'il y a à critiquer là-dedans ? Genre, il y a des gens qui sont des connards et des gens qui sont pas des connards.
Bah oui, enfin à un moment donné...
Bah c'est pas une critique ça,
que tu veux dire d'autre.
C'est juste une réalité de l'humanité, tu
oui,
vois.
Oui mais bon, c'est pas tout est beau, tu vois.
Ah pour moi c'est vraiment Disneyland, tout est beau au niveau de l'industrie du manga. Et je trouve ça vraiment dommage. On n'aborde jamais les véritables problèmes que peuvent... poser une industrie. Et le manga est une industrie. Et au final, ça me donne à chaque fois le même sentiment de c'est une énorme pub pour l'industrie du manga. Alors tout est beau, tout est bien, les éditeurs sont gentils, les éditeurs sont à fond. Et en fait, c'est ça qui m'emmerde. J'ai lu quelques mangas hein, sur tu vois, les Bakuman et compagnie. Et en fait, ça me gêne au bout d'un moment parce que genre, vous n'êtes pas honnête. Vous n'êtes pas honnête, un milieu comme ça n'existe pas. Vous voulez le raconter de manière shonen, pourquoi pas, mais moi j'attends en fait le Uchijima, tu vois, du milieu
du manga.
Alors moi je suis pas d'accord avec, avec la plupart des mots que tu as utilisés, mais Robin, on t'a pas entendu à ce sujet. Alors, donc, moi... est-ce que tu es d'accord avec les mots de Cagnard, de Cagnard et compagnie d'ailleurs. Il a dit du mal de Bakuman.
Et je vois pas le rapport avec la compagnie.
T'as dit Bakuman et compagnie, c'était méchant pour Bakuman.
Ouais, je parlais de l'autre truc qui était hyper ecchi, le manga sur les mangaka qui était en mode ecchi de
Kujiseo.
Ouais.
Hitman.
Ah oui, Hitman. Oh, oui, mais c'est cool. Alors moi, je suis un peu d'accord avec vous deux. Alors, je pourrais même reprendre mot pour mot, je pense que tout ce qu'a dit Cagnard, genre vraiment, je pense que je suis relativement d'accord avec ça, c'est-à-dire ce côté too much, ce côté idéalisation du milieu de l'édition, c'est vrai que c'est pas possible, ça n'existe pas en fait, genre vraiment n'importe quel milieu professionnel ne fonctionne pas comme ça, il n'y a pas des gens surinvestis comme ça, des gens qui sont vraiment des espèces de... Enfin tu vois, tu disais, oui il est moins sympa le caméléon, c'est un énorme connard, c'est-à-dire le vrai mec, c'est, c'est un monstre, ouais. Genre vraiment il est horrible et on sait pas pourquoi, c'est-à-dire qu'il est... A priori,
il est frustré.
C'est dans son essence, quoi. Ouais. C'est un mec maléfique, quoi. Tu vois. Ouais. Et moi, pour moi, il y a vraiment, c'est ça le truc qui me fait hurler sur ce manga.
C'est l'absence de nuance
et c'est le côté complètement essentialisant des choses. C'est-à-dire, il y a le génie et le raté. Enfin, tu sais, c'est vraiment un truc complètement. C'est Amadeus en nul, quoi, tu vois. Mais par contre,
j'aime bien.
Genre, vraiment, tout est. Je pourrais tout reprendre. C'est-à-dire, tout est fait pour que ça me plaise pas. Et alors, je rajouterais en plus la représentation des persos féminins, c'est catastrophique dans ce manga, mais vraiment, c'est catastrophique. Malgré tout, je l'ai lu, j'ai fait ça marche, tu vois, genre le rythme, l'énergie, il y a quand même des idées, quoi, tu vois, genre ce truc de le swap de corps, oui, ok, c'est un truc qu'on a déjà vu et tout, mais là, c'est, je sais pas, c'est traité. Tout de suite, tu te projettes, tu dis, waouh, putain, qu'est-ce qui se passe, quoi? Genre, je suis le raté, je deviens le génie, et je suis le génie, je deviens le raté. Enfin, tu vois, il y a des vraies idées qui font que tu te dis, ouais, t'es quand même un peu pris par cette espèce d'énergie complètement too much. Moi, c'est un truc où, des fois, c'est ça que je trouve assez génial dans le médium du manga, c'est que, clairement, c'est un médium qui n'a jamais peur de faire trop dans le too much. Et Dieu sait que ça peut être très casse-gueule et en même temps des fois ça marche.
Ouais. Bah, c'est pour ça que je dis que c'est un manga à lire.
Et c'est ça, et en fait
abordé au troisième degré.
Et
mais...
C'est ça, à partir du moment où tu te dis c'est Food Wars en manga, j'avais même oublié que je t'avais dit ça et vraiment à partir du moment où t'admets que c'est ça, c'est bon, ça passe, quoi. Genre,
t'étais censé
vraiment
être la base les de
gens,
mon raisonnement.
Non mais les gens lisent, tu vois, genre vraiment quand t'as l'éditeur qui lit le scénar du gars et tu sais t'as un dragon qui le traverse parce qu'il lit le scénar,
ça suffit, là, ça
c'est
suffit
vraiment trop, quoi.
Justement, c'est tellement important, tu dis, mais c'est stylé.
Mais vraiment du coup c'est ça, je me rappelle, j'ai lu, j'ai fait tu sais, j'ai vraiment pouffé un peu en rigolant, je me dis bon bah oui, c'est vrai que si finalement ça me fait rire, c'est que quelque part je sais pas quelle était l'intention de l'auteur au départ, si c'était de que ce soit drôle ou que ce soit sérieux. Bon, en tout cas, ça a provoqué une émotion chez moi qui est réelle, donc bon, ça a marché d'une certaine manière. Mais au fond, c'est ça qui me... c'est là où je suis un peu emmerdé, c'est que je me dis, putain, je suis quand même d'accord avec globalement tout ce qu'a dit Cagnard, mais moi, je sais pas, ça a marché quand même sur moi. Donc est-ce que je suis une grosse victime et je me fais manipuler
non,
par...
Alors, tu veux que je te dise, je vais t'expliquer. Je pense que chez toi, le yin et le yang, ça marche très bien.
Ok, bon, bah,
non,
bah,
mais fait, non, mais parce qu'en disons fait, alors je vais juste me permettre une petite... supposition, parce que du coup moi je pense que c'est le titre en fait qui déjà te donne un indice, c'est que dans le titre c'est Dragon et Caméléon, donc c'est une référence très claire à Tigre et Dragon.
J'y avais même pas pensé.
Qui est en fait une base de plein de littérature chinoise à la base sur tous les récits d'arts martiaux, parce que c'est les deux animaux les plus forts en fait de l'univers. T'as le dragon pour l'aérien, le tigre qui est le maître du sol, de la terre. Et en fait, il y a les oppositions de tous les éléments qui sont condensés, en fait, symbolisés par ces deux animaux.
Ah oui, genre le maître des cieux et le maître de la terre.
Par exemple. Et puis, t'as le dragon qui, malgré le fait qu'il soit beaucoup associé à l'eau, en fait, lui, il est aussi quand même maître du feu et de l'air, et que le tigre est au contraire lié à d'autres éléments qui sont plutôt liés à la terre. Et en fait, là, il a choisi Caméléon parce que je pense qu'il voulait vraiment choisir un animal un peu répugnant et ignoble qui corresponde en fait à
personnage.
En ça, déjà, c'est un clin d'œil de dire, hey, en fait, on va vraiment se moquer de plein de trucs, tu vois.
Oui, et puis
mais
c'est vraiment aussi
c'est
sur.
C'est pas très explicite, ça se voit le coup.
Sur la vision du travail artistique, tu vois. Genre, il y en a un, c'est le dragon, c'est l'inspiration pure, ultime, tu vois.
Il y a quelque chose de transcendant,
éthéré,
voilà.
Tu vois. Et l'autre, c'est, moi, je copie. Je suis une espèce de bestiole dans mon coin qui
fait
comme les autres, quoi.
Sauf qu'il faut être trop bon aussi.
Il faut être très fort aussi.
Pour copier les styles
et
des
c'est
autres.
C'est ça que j'ai trouvé assez cool, c'est que finalement, petit à petit, il y a quand même, malgré tout, dans toute cette outrance, des nuances qui apparaissent justement sur c'est quoi le génie finalement, tu vois. Arriver à copier quelqu'un et arriver à copier tellement son style que tu arrives à t'imprégner de son, son art, c'est aussi une forme de génie. Et enfin voilà, il y a des questions finalement assez intéressantes.
Il le surpasse un peu dans le premier tome.
Bien sûr.
Bon, c'est ridicule. C'est ridicule.
De toute façon, j'en rajoute. Mais pour revenir,
où je ne sais pas de quoi parle leur manga, ça m'énervera toujours.
Mais pour revenir sur le méta manga, alors moi ça m'a pas dérangé. Hein, au contraire, ça fait partie des trucs que j'aime le plus dans la. Voilà, on est d'accord.
Mais toi, t'adores ça pour le coup, Max.
Alors moi, je suis vraiment très 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 fan. Et il y a même quelques coulisses à la fin dans les bonus. Tu vois, bah je suis pas contre. Ça m'a pas déplu ce genre de choses. Après, effectivement, vous voulez du sérieux, bah il y a Réimp. Voilà.
Oui,
non, mais vraiment.
C'est très bien Réimp.
Il y a plein d'autres bouquins.
Tokyo ces jours-ci,
vous voulez du sérieux, c'est magnifique. Il vient de gagner le prix ACBD de Taiyo Matsumoto. Mais si vous voulez du fun et du what the fuck, on est vraiment avec Dragon et Caméléon qui sort aux éditions Manabooks pour le tome 1.
Maxime, pour toi, plus manga de cuisine ou manga de sport?
À choisir, je le mettrais plus en manga de sport en vrai.
Ouais, moi aussi. Je pense moi aussi. Ouais. Sur les réactions, je vois du manga culinaire, mais sur la manière dont l'adversité est mise en place, je vois du manga de sport.
Passons à plus sérieux maintenant avec L'école des dragons sur la montagne, œuvre de Ryoto Kui, l'autrice de Glouton et Dragon, qui revient chez Saka Casterman avec la parution de son premier recueil d'histoires courtes publié au Japon en 2011. Ça ne nous rajeunit pas. Ça regroupe 7 histoires courtes dans lesquelles la mangaka revisite la fantasy globalement, un petit peu de SF, mais sur global ou peu de fantastique, mais avec la créativité, l'imagination qui feront d'ailleurs son succès avec Glouton et Dragon quelques années plus tard, et un recueil assez surprenant dans lequel on ne trouve pas de dragon tout de suite d'ailleurs.
Non, c'est super déroutant. Enfin, chaque chapitre est un peu une surprise, un peu à part, sinon qu'il y a une espèce de progression chronologique quand même. Donc on commence avec de la fantasy de Moyen-Âge et effectivement on cherche un peu les dragons, il y a un monstre, un roi démon, enfin on sait pas trop,
un roi monstre
carrément, et il y a quand même un passage où on se retrouve avec des extraterrestres donc, qui nous observent à travers des appareils de surveillance comme des écrans et tout ça, et on finit sur des centaures modernes et une école de dragons, donc on ne s'ennuie pas. Et moi ce que je trouve assez chouette, c'est que le dessin, de prime abord, il était vraiment très sommaire. Je trouvais qu'il y avait une espèce d'épure très prononcée. Et petit à petit, ça s'étoffe. Il y a une espèce de ligne qui me fait plus penser à de la BD, hein, une ligne très claire, très. Et c'est pas vraiment ce qu'on trouve dans le manga, quoi, sauf si on va vers des choses très arty. Et. Au fur et à mesure des chapitres, ça change, ça avance dans le livre et on arrive petit à petit à une narration beaucoup plus dynamique, beaucoup plus manga, selon les codes que nous, on connaît déjà, quoi.
Et dis-moi, est-ce que toi aussi t'as pensé, après les 3 premières histoires, qu'à un moment donné, tout allait se rejoindre, ou c'est que moi ?
Si, non, moi j'ai pensé aussi et j'avais un peu cette attente-là et je pense que... d'une certaine façon, ça se rejoint. C'est juste que elle dit « Ok, mais on va pas tourner à gauche, on va complètement tourner à droite. » Enfin, il y a une espèce de « Allez, là où tu pensais aller, finalement, elle va y arriver, mais en faisant un maxi détour. »
Mais même presque jusqu'aux extraterrestres, j'ai quand même l'impression qu'on est presque dans le même monde.
Ouais, carrément. Moi, j'ai pris ça comme ça. Donc,
Ouais, bah, en fait, moi, je trouve que c'est... Bon, de toute façon, moi, j'aime bien les recueils d'histoires courtes. En général, ça permet de plonger un peu aussi dans l'œuvre et dans l'imaginaire artistique d'un auteur, enfin d'une autrice en l'occurrence. Et bon, après, c'est le principe aussi d'un recueil d'histoires, c'est que il y a à boire et à manger, quoi. Ça va du conte. Les premières histoires, c'est vraiment très conte de fées, avec limite, si elle met pas, il était une fois à chaque fois au début de chaque histoire. Ça va dans de la parabole sociale, il y a de la science-fiction, il y a de l'absurde et tout. Et donc c'est très très hétérogène et graphiquement aussi ça l'est, hein. C'est-à-dire que tu sens que les histoires n'ont pas toutes été faites au même moment, qu'elle a aussi travaillé son style sur tout ça, mais je trouve que c'est quand même globalement porté par une forme d'élégance. Alors déjà graphique, je trouve qu'il y a vraiment un travail quand même, ce que tu disais sur la ligne, une forme de ligne claire. Alors ouais, ça peut être BD ou pas, d'ailleurs il y a plein de mangas qui peuvent aussi être sur ce registre-là. Mais c'est vraiment, je pense que c'est globalement de très bon goût, tu vois, même si les registres sont différents. Et même en termes de aussi tonalité d'histoire, façon de raconter, c'est... Je sais pas, il y a un truc assez premier degré dans la, voilà, la manière aussi d'amener les informations, d'amener les personnages et tout.
Oui, mais tu vois qu'il y a une sorte de d'exploration.
Et après, c'est ça, moi,
style, c'est,
et, là, et là où je vous rejoins, ce que tu disais tout à l'heure sur le côté, t'as un peu l'impression que c'est dans le même univers, que ça pourrait être des histoires connectées. Tu vois, effectivement, les premières histoires, on parle d'un roi monstre qui revient
dans
plusieurs fois
château.
Dans des incarnations différentes. Parce qu'en fait, le roi monstre, dans la deuxième histoire, c'est vraiment un roi monstre, c'est-à-dire un roi qui s'est transformé en monstre. Et d'ailleurs, elle est super, cette histoire. Je trouve que c'est une des meilleures. Et après, le roi monstre devient plus une idée, tu vois. Enfin, et je trouve que ça, c'est des... Moi, j'aime bien parce que c'est vraiment des manières de connecter différentes œuvres, tu vois, entre elles. Et c'est aussi, je trouve, ce qui fait l'intérêt d'objets littéraires comme sont des recueils de nouvelles ou des recueils d'histoires courtes de mangaka, c'est comment ce genre de matériaux créatifs peuvent être des points de départ pour développer des histoires, tu vois. Et je ne sais pas si c'est ce que ça deviendra ou pas, mais tu vois, typiquement, moi, l'histoire sur les centaures, là, donc c'est une espèce de parabole sociale sur, en gros, on est dans un monde où... t'as les humains, les homo sapiens normaux vivent maintenant avec des centaures. Et vraiment, c'est voilà, genre vraiment, il y a des...
Ouais, ils sont au travail.
Ah bah, c'est des humains, juste, ils sont comme des humains, mais ils ont quatre pattes et ils sont comme des chevaux. Et
ils sont considérés un peu comme des chevaux de trait, finalement,
et
parce
oui,
que
parce
c'est des bosseurs.
Exactement, parce que du coup, t'as toute une réflexion sur, ah bah oui, les centaures ont l'image d'une race travailleuse qui voilà, ne rechigne pas à la tâche, qui se fatiguent pas, et tout, alors que les humains sont des feignasses qui n'ont pas envie de travailler et tout. Et genre vraiment, je trouve que moi, ça m'a, je sais pas, ça m'a donné une vibe un peu à la Darwin's Incident, tu vois, ce truc de utiliser un postulat un peu
animalier,
fantastico animalier, mais dans un contexte très réaliste, parce que c'est quand même dans la société japonaise contemporaine. Et pour, enfin moi, franchement, cette histoire, elle dure quoi, une cinquantaine de pages et tout. En plus, elle est assez habilement construite parce que t'as des mini chapitres qui se suivent, avec entrecoupés de petites scènes de vie d'un couple métis, c'est-à-dire un mec qui est marié avec une femme centaure. Et je sais pas, ça marche super bien. Et tu te dis, putain, mais ça, en fait, ça ferait une série trop bien, tu vois. Genre, pourquoi c'est qu'une petite histoire dans un recueil? Moi, j'aurais bien une série entière là-dessus, tu vois. Je trouve ça trop intéressant, quoi.
Tu vois, moi, par exemple, mon histoire préférée va être celle avec les extraterrestres.
Ouais.
J'aime bien le fait que ça ne soit qu'une nouvelle.
Ah oui, celle-là, tu vois, typiquement, elle est très bien en tant que telle, mais elle mérite pas plus, tu vois.
Mais elle me fait penser
alors
à des histoires.
Je me dis,
je sais pas, mais ça me fait penser à des petites histoires, des petites nouvelles un peu mineures de Philip K. Dick, ce genre de truc.
Mais parce que l'histoire avec les extraterrestres, elle a un twist.
Oui,
en plus, qui fait que tu fais ah putain, ok, ça.
Mais du coup, c'est quand même donc l'autrice de. Je me trompe toujours, c'est Dragon
et Glouton.
Glouton et Dragon.
Glouton et Dragon, du coup. Et en fait, tu vois des certaines idées en germe, déjà, alors que c'est un recueil qui date de 2011. Et déjà, le super château imprenable, tout ça, tu vois clairement que ça va servir de base à son super donjon, etc. Et c'est vrai que toute la variété aussi de personnages qu'elle invente, les situations dans lesquelles elle les met, on les retrouve un peu après dans effectivement une intrigue beaucoup plus longue et beaucoup plus structurée, quoi. Mais là, déjà, tu as des versions condensées de trucs qui d'univers auxquels, ouais, moi en tout cas, j'avais jamais pensé aussi.
C'est vraiment le genre de recueil, genre d'objet même, avec lequel tu dois te laisser porter pour l'apprécier, pour le lire. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai abordé à la confiance. Et j'ai pas été déçu une seule seconde des moments de lecture que j'ai passé. Ceci pour ça que j'aime bien en général les histoires courtes, même si ça n'a pas toujours été le cas, parce que ça provoque pas un déchaînement de passion. Je suis pas passionné comme devant Caméléon et Dragon en disant ouais, vas-y, défonce-le avec tes nouvelles histoires. Mais ça.
Déshabille-le avec ton nouveau scénario. Toi-même, tu t'es rendu compte en disant la phrase genre vas-y, fais mieux.
Ouais.
Je sais pas comment le dire. Tu peux pas le défoncer sa gueule, donc fais mieux.
Mais voilà, et ça provoque pas des moments de tension, parce qu'ils vont pas s'entretuer, on n'est pas suffisamment attaché au personnage. Mais sauf que ça peut te marquer. Il y a vraiment des histoires. Je vais reprendre le coup des extraterrestres. Du coup, je ne vais pas vous dire pourquoi. Mais ça peut te marquer. Ça peut te donner des idées pour plus tard dans tes réflexions. Des bases de référence. Enfin, je ne sais pas. C'est pour ça que c'est intéressant.
Ouais, et typiquement, tu vois, moi, je me rappelle que Glouton et Dragon, j'avais lu un peu les premiers tomes. Ça m'avait pas plus passionné que ça parce que j'avais un peu l'impression que ça tournait en rond autour de ce truc de
on va cuisiner des trucs.
Mais tu vois, le fait d'avoir lu ce recueil me fait voir le travail de l'autrice d'un nouvel œil, et ça me donne presque envie de replonger dans Glouton Dragon, de me dire ah ouais, ok, donc peut-être que je vais voir des choses intéressantes que j'avais peut-être pas vu la première fois parce que j'étais peut-être pas attentif aussi.
Est-ce que t'as bien aimé les dragons de ce recueil?
En vrai, je me suis dit bon, ils ont vraiment mis dragon dans le titre parce que c'est l'autrice de Glouton et Dragon, et il fallait faire un rappel,
un lien logique d'une certaine manière.
Après, c'est le titre de la toute dernière nouvelle.
Oui, mais tu vois, c'est bizarre déjà dans un recueil de nouvelles en général. Le titre du recueil, c'est le titre de la première histoire. Et là, c'est pas ce qu'ils ont fait. Tu vois, donc c'est vrai.
On est donc à 3 mangas, toujours pas de vrai dragon. Mais bon, peu importe. L'école des dragons sur la montagne, c'est aux éditions Saka Casterman. Et puis Glouton et Dragon est intégralement disponible et terminé maintenant. Donc vous pouvez aussi vous lancer intégralement dans cette histoire et dans cette aventure. Finissons cette émission avec 2 mangas très rapidement. Parlons vite fait de Dragon Quest, The Adventure of Dai, The Hero, Avan and the Dark Lord of Hellfire. Par Riku Sanjo. ouais, je donne le titre entier, pardon. Par Riku Sanjo, l'auteur de la série originale, et avec Yusaku Shibata au dessin. Ici, le récit se concentre sur la jeunesse du maître de Dai, Avan, bien avant qu'il soit le guerrier qu'on a connu dans Dragon Quest, un spin-off qui a été lancé en 2020, 30 ans après la première parution. Et au Japon, on est déjà à 12 tomes. Et toi, Cagnard, t'as bien avancé la lecture. Et est-ce que t'as vu un dragon?
Et non, toujours pas de dragon ici, Maximilien. Nous attendons toujours avec impatience l'apparition d'un animal à écailles. Non, pas de dragon pour autant. Et de toute façon, j'ai l'impression que c'est un peu le principe de cette émission. Hein. C'est manga de dragon qui ne parle pas de dragon, sauf Ruri Dragon à la limite, mais qui...
Ouais, on l'a pas vu.
Mais on n'a pas tellement le
dragon. Mini dragon, dragon en devenir. Ouais,
et je dois dire...
Les cornes font-ils le dragon?
Bon, on avait déjà parlé de ce titre quand on a fait l'émission sur Fly. On avait lu que le tome 1. Et je me souviens qu'on avait tous été très positifs sur cette série. Et moi,
maintenant,
premier,
roulement de tambour.
Alors que j'étais vraiment pas très chaud sur un spin-off, tu vois, de Fly. Et vraiment, mais quel coup de maître, cette série. Vraiment, j'ai rien à dire dessus. Et j'ai relu en plus... Alors
bon.
Oui, effectivement. oui, non, t'as raison. Son titre est vraiment problématique pour le coup. On est passé de Fly à Dragon Quest and the Hellfire.
Dark Lord of Hellfire.
Mais vraiment, je suis persuadé que cette série émet une vitesse à tous les spin-offs que j'ai pu lire. Et limite, je trouve qu'elle est quasi problématique dans le sens où derrière, ou même avant... Tous les spin-offs qui vont avoir lieu, t'es là genre, mais c'est comme ça en fait qu'il faut faire, c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Et c'était exactement la manière dont moi je parlais des spin-offs de Star Wars par exemple, qui étaient sortis, où là vous me racontez quelque chose que vous n'avez pas besoin de me raconter, je préfère le mystère et compagnie. Et là en fait, c'est passionnant, c'est vraiment passionnant parce qu'ils ont trouvé exactement le bon équilibre entre les références à l'histoire que tu connais et donc que tu es censé connaître, que tu pensais connaître, et ils arrivent à instaurer plein d'éléments scénaristiques qui sont hyper intéressants. Vraiment, je suis archi fan de cette série. Et en plus, au niveau du dessin, moi, il y avait un truc qui me dérangeait un peu parce que tu voyais qu'il y avait une espèce de calque du style de Fly, un petit peu modernisé. Et en fait, plus les tomes s'avancent, et plus ça se perd complètement, et le dessinateur se fond complètement là-dedans. Et là, la série, elle a un style. Et vraiment, je pense que même quelqu'un qui n'a pas lu Fly, vraiment, il peut commencer par cette série. Il peut. Et limite, ça m'intéresserait d'avoir des retours de quelqu'un qui commence par cette série. Mais là, tout est vraiment... Je sais pas quoi dire de plus, si ce n'est... C'est parfait. Pour moi, c'est vraiment parfait.
Une des séries de fantasy et d'action les plus intéressantes actuellement.
Avec que des trucs qu'on connaît. C'est vraiment... Et parce que même scénaristiquement, le chemin est quasi le même que Fly, mais avec... C'est comme si c'était un éternel recommencement et que c'était une sorte de cycle qui revenait chaque année. Et c'est ce que disaient déjà les auteurs dans Fly, que le roi du mal est mort, mais il revient et tout. Et pour autant, je trouve ça génial. Et même les persos que je trouvais un peu bourrin, un peu gauche et compagnie, ça y est, il y a de là la finesse. Il y a de là la finesse qui arrive. La fameuse finesse de Popu que vous n'avez jamais su voir, vous qui le traitez de pleutre. Mais vraiment, je trouve ça génial. Alors oui, c'est peut-être très personnel et peut-être qu'il n'y a toujours pas de dragon. Mais je sais qu'il va y avoir un dragon à un moment.
Bah, si ça suit le cycle normal.
Alors, c'est la différence, c'est que Fly est un chevalier dragon, Aban ne l'est pas du tout.
Non, mais il y aura.
Mais par contre, va y avoir un chevalier dragon qui va débarquer à un moment, normalement.
Mr. B.
Et vraiment, je trouve ça. Enfin, c'est. J'ai honte sur moi d'avoir vraiment critiqué tous les spin-offs que j'ai pu lire et compagnie, parce que. Là est la preuve qu'un bon spin-off, c'est quand possible. Il est fait intelligemment. Mais là, par contre, j'appuie sur le côté intelligent. Je trouve que scénaristiquement, c'est très intelligent la manière dont il amène ça et les nouveautés qu'il amène par rapport au lecteur et par rapport aux nouveaux lecteurs aussi. Et vraiment, lisez cette série, elle est vraiment trop cool, quoi.
Et j'ai même envie de dire, lisez-le en parallèle de Free Range. Je trouve ça très intéressant de voir les deux styles qui n'ont absolument aucun rapport sur deux histoires de fantasy avec un principe de recommencement.
Je vais te monter en l'air, là. Tu viens de me comparer à Free Range. Je viens de faire un monologue, là, mec. Non, mais bon, Free Range, j'aime pas trop, mais je te fais confiance là-dessus.
Dragon Quest The Adventure of Dai the Hero Avan and the Dark Lord of Hellfire.
Tu l'as fait parfaitement.
Ouais, franchement, c'est vraiment, ça va.
Tu le tiens.
10 points.
Aux éditions Delcourt, c'est disponible chez votre libraire. On termine cette émission avec un manga dans lequel on peut voir des dragons. Ou on le fait pas?
Ah bah si.
On le fait. On peut. Parlons de Lucas, vétérinaire draconique, par l'autrice du manga de SF Yashikei Terrarium. C'est Terrarium, pardon. Pour un manga de science-fiction de genre type Yashikei. Terrarium. Virgule.
Vétérinaire dragonique.
Signé donc par Yuna Hirasawa, qui est revenu donc cette année avec un manga de vétérinaire, mais vétérinaire de dragon.
Bah oui, pourquoi s'embêter?
Tu ne t'attends pas à voir cette autrice qui passe d'un manga de SF, alors soit qui était un peu chill et tout, tu t'attends pas à la voir switcher, tiens, dans une école, on va apprendre à soigner des dragons.
Non, clairement. Et en plus, il faut savoir qu'elle a aussi publié, alors ça avait été publié avant, mais un manga autobiographique sur sa transition, parce que c'est un homme qui est devenu une femme. Et elle raconte ça dans un manga qui s'appelle Devenir enfin soi-même ou un truc comme ça. Et manga super aussi. Et vraiment, tu te dis, c'est un peu le truc de le syndrome de... Ouais, ok, bon, j'ai raconté des trucs sérieux, c'est-à-dire des histoires un peu tranches de vie de robots qui se rappellent
qui étaient très poétiques,
mais tu sais, très...
c'était un peu pesant.
Très métaphysique aussi, tu vois, sur l'existence, machin et tout. Je parle de ma transition, donc bon, c'est pas super rigolo. Enfin, elle le faisait de manière assez légère, mais c'était quand même globalement pas rigolo, quoi. Et là, elle arrive avec un truc sur des dragons. Et vraiment, moi en vrai, j'ai pas giga accroché. Je trouve que le dessin est toujours top. Hein. C'est vraiment une super artiste, super dessinatrice. Et voilà, elle se fait plaisir sur de la fantasy. Ça fait plaisir aussi parce qu'elle le fait très bien. Après, moi, je trouve ça un peu bébé, quoi. C'est vraiment des histoires de « Ah, mani, les petits dragons qui sont pas bien et on va les soigner et tout. » Bon, je me dis, c'est un peu genre, j'ai fait des trucs sérieux, maintenant, en vrai, mon kiff dans la vie, c'était les dragons, et j'ai envie de faire un manga où on va soigner des dragons. Donc, tant mieux pour elle, tant mieux aussi si ça fait plaisir à des gens de lire ça, parce que je sais qu'il y a des geeks de dragons, et il y a des gens qui... Je sais que ma copine, par exemple, adore les histoires de dragons, genre vraiment, c'est déraisonnable, tu vois, c'est vraiment... Il y a une histoire avec des dragons, elle va kiffer. Je sais pas pourquoi, les dragons, ça n'existe pas, elle adore ça, tu vois.
Et bah, c'est pour ça.
Non, mais voilà, et donc je sais
elle
que...
Elle les connaît pas, les dragons.
Et je sais que c'est un segment, un truc, un genre qui plaît, parce que juste le dragon est une figure... Alors là, en plus, on est vraiment, pour le coup, par rapport à ce que disait Julie tout à l'heure, on est plus sur la version... occidental des dragons, c'est plutôt les dragons
avec les écailles,
à Iragon,
tout ça,
quoi.
La table ronde, Arthur.
Ouais, voilà. Et je sais qu'il y a un public qui adore ça, quoi. Les histoires de dragons, c'est leur truc. Ils trouvent ça trop stylé et ça leur plaît de lire des histoires de dragons. Bah,
comme
mieux.
Le steampunk.
Faites-vous plaisir avec Lucas.
Mais c'est très
Yashikei. Oui, ça reste quand même dans cette frange Yashikei, quoi.
Tant qu'elle t'annonce pas qu'elle va vivre avec le roi des démons et leurs 10 enfants. Tout
non, et que notre fille est un dragon.
Ouais, bah moi, tout ces dragons, ça me fait penser quand même une petite quelque chose qu'a dit Demizu Posuka, donc la dessinatrice de The Promised Neverland, qui était là à Paris il y a quelques temps. Et en fait, elle disait que elle adore les dinosaures, mais que en fait, elle a fait cette annonce parce que quelqu'un lui a fait remarquer que dans ses postent sur les réseaux sociaux. Elle mettait beaucoup de dessins de dragons, de dinosaures qui souvent sont spectaculaires, très grands, très monstrueux. Et en fait, elle disait qu'elle adorait ça, qu'elle collectionnait les figurines de dragons. D'ailleurs, il y a une marque française qu'elle a citée. Elle trouvait que... Et c'était là genre, ah ouais, c'est super. Et donc, elle nous a montré des
ça,
images
c'est super dragon,
de,
ça.
De son atelier où voilà, elle pose ses figurines à côté de son bureau. Et en fait, non, c'est très drôle parce qu'elle a quand même dit qu'elle était aussi... Enfin, comment dire, il y avait une idée comme ça qui lui trottait dans la tête. C'est qu'est-ce que ça fait d'être dévorée par un monstre aussi puissant, aussi grand et aussi monstrueux. Et elle a dit tout ça en riant. Donc, on se dit waouh, elle a des idées bizarres, mais ça
non mais c'est intéressant voilà. En soi de dire à quoi ça ressemble quand tu es mangé par une créature imaginaire et compagnie. Mais ce qui est marrant, c'est que dans Promise Neverland, autant que je me souviens, il n'y a pas de dragon.
Non, parce que justement elle
s'est réfrénée
non, c'est parce que avec son scénariste, il voulait vraiment que les monstres soient le plus effrayants possible. Et qu'est-ce qui est plus effrayant qu'un monstre humanoïde est doué de évidemment. Parole et doué de pensée
et un dragon, c'est majestueux voilà. En
alors
plus
que, oui, ça alors fait que pas là, peur un dragon, c'est impressionnant
plus,
mais
voilà, ouais. C'est impressionnant.
T'as déjà vu Baran
que...
avec une moustache?
Maintenant j'ai des dragons avec des moustaches.
Ah bah oui.
mais je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que le dragon, c'est aussi quelque chose qui te fait voyager dans des imaginaires et ça peut être aussi terrifiant que rassurant parce que c'est grand, parce que c'est imposant ouais. Et que quand tu
l'histoire
voyages sur un autre dragon, t'es le roi
ça,
du monde quoi.
Et c'est ça, il y a plein de figures du dragon. Il y a les dragons bestiaux et il y a les dragons aussi qui parlent, qui sont sages, tu vois, donc il y a aussi
ceux qui exaucent des vœux.
Non mais voilà, oui voilà, c'est ça.
Ça c'est les meilleurs.
Ouais, c'est les meilleurs évidemment.
Juste pour revenir donc sur Yuna Hirasawa, elle a donc signé trois titres dont on a parlé, Devenir enfin moi-même, puis Terrarium, puis Luca Vétérinaire Draconique, seul manga de cette émission dans lequel on trouvait des dragons.
Tout à fait.
Parce qu'on a fait une émission pour parler de dragons sans dragons, quoi.
Bah une belle arnaque, quoi, vraiment, on peut le dire. Hein. C'est-à-dire que là, vraiment, on vous a vendu une émission genre, hey, vous aimez les dragons, on va vous parler de manga qui parle de dragons, et vraiment, dans la quasi-totalité des mangas qu'on a cités, il n'y a pas de dragon. Ou alors, ils sont évoqués d'une façon ou d'une autre.
C'est comme sur les listes des ingrédients, il y a 3%.
Fabriqué en France, transformé. C'est passé à un moment donné par la France, c'est là où on vous l'a vendu, donc on met un petit drapeau dessus. C'est le hasard des calendriers qui nous a emmenés sur une émission autour des dragons, mais sans vraiment beaucoup de fantaisie. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas d'émission sur la fantaisie avec des vrais dragons plus tard.
Non, et puis c'est mine de rien assez intéressant parce que la figure du dragon, elle a toujours été pour moi hyper importante dans le manga à différents niveaux, sans avoir forcément dragon dans le titre. Et c'est vrai que, tu vois, en me faisant la réflexion, tu vois, bon, Dragon Quest, les Chevaliers du Zodiac avec Shiryu et compagnie, mais pour moi, la dernière véritable occurrence de dragon qu'il y a eu dans le manga, c'est Fairy Tail. Oh, où là, oui. Il était vraiment question de dragons et de différents dragons et compagnie.
Avec plein de pouvoirs.
Mais, ouais, exactement, des dragons de feu, des dragons de glace et tout. Mais je me suis demandé si à un moment, Fairy Tail n'avait pas un peu trop exploité le truc, tu vois, en utilisant tous les dragons.
D'ailleurs, il l'a récupéré dans sa série d'après. Là,
dans Eden Zero.
Non, dans Dead Rock, quoi, genre, tu vois, genre,
oui,
le héros, dragon noir, ou je sais plus quoi, tu vois. Et,
mais en fait, est-ce que ça serait pas Machima qui a capitalisé tous les dragons, tu vois?
Il y en avait dans Rave, tu vois, c'est vrai que c'est son
mais
truc,
oui,
quoi.
Mais oui, il y a toujours un dragon dans Rave.
Prochaine émission, Fairy Tail, a-t-elle tué la série qui a tué les dragons dans le manga?
Moi, je pense que va y avoir un nouvel éveil du dragon. Dans pas très longtemps, je pense qu'on va retrouver une série où vraiment le dragon va être au centre, parce que là, le dragon est parti un peu dans tous les sens, le colocataire, le vétérinaire et compagnie. Je pense que un peu comme le steampunk, c'est une figure qui est d'une manière iconique, comme disait Robin avec sa copine, tu vois, c'est une figure qui fascine et compagnie. On l'a un peu utilisé à toutes les sauces. Je pense que il y a un truc qui va revenir un petit peu sur les dragons.
Je vais rappeler ma théorie sur Kagurabashi. La forme finale du héros de Kagurabashi sera une attaque draconique.
Oui, Dracofeu.
Non, c'est pas Dracofeu.
Je préfère la version de Julie.
Ouais, Léviator, c'est Léviator, pas Dracofeu. Voilà.
Mais il n'y a pas dragon dans le nom.
Non, mais il y a Dracolosse. C'est un autre Pokémon. Pourquoi on parle de Pokémon maintenant
dans
cette
émission?
Parce qu'il y a des dragons dans Pokémon, c'est vrai.
Il y en a dans Tower Dungeon, a priori, puisque c'est la tour des dragons.
Et lui, il est incroyable.
Mais voilà.
Parce que
mais
même
c'est...
même.
Mais il y avait pas dragon dans le titre, donc ouais. On n'a pas pu le mettre dans cette.
Tower Dungeon Dragon.
Ça aurait marché quand même. De toute façon, c'est NIA. À partir du moment où tu mets NIA sur la couverture, ça se vend. Merci beaucoup à tous d'avoir écouté cette saison de la cinquième de couve. On vous propose dimanche, mais ça, c'est une émission un peu débrief, un peu vite fait. Hein. C'est celle-ci la vraie dernière émission de la saison. Voilà, on essaie de vous proposer plein de trucs. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes marrés.
Nous, on s'est bien amusés en tout cas. Et merci beaucoup de nous écouter chaque semaine.
Chaque année.
Et chaque année.
Parce que c'est la fin de la saison.
Ouais.
Et puis on revient mi-septembre par là, quoi.
On revient à la rentrée.
Ouais, à la rentrée.
Quand on a fait les fournitures scolaires, voilà.
On a acheté nos copies doubles.
Voilà, c'est ça. Cahier avec des petites cases, pas des grandes cases.
Petit carreau, on dit.
Petit carreau. Oh putain, ça fait tellement longtemps que
Clairefontaine, petit carreau, on est là.
Mais merci beaucoup. Pour votre soutien, et puis on se retrouve à la rentrée pour parler d'autres dragons.
Potentiellement.
Ou de manga de la rentrée.
Non, de dragons.
Il y aura ça des marche. Dragons.
Merci à tous de nous avoir écoutés. Passez un excellent été. Si jamais on a le temps dans l'été, on essaiera de revenir avec l'équipe des dragons croustillants. Ou alors ça sera que au nouvel an de l'année prochaine. Voilà, enfin voilà. Ça va vraiment être totalement aléatoire. Ne misez pas dessus, mais si jamais vous voyez tomber un truc, ouah, trop bien, c'est les dragons croustillants qui sont de retour. Ça c'est pour ceux qui ont écouté l'émission du dernier Nouvel An que vous pouvez réécouter pendant cet été si vous manquez de cinquième de couve. Merci de nous avoir écoutés, à très vite, ou plutôt bon été, et ciao.
Salut.
Et on se voit de l'autre côté.